troisième film de la soirée, L'Innocence de Koreeda Hirokazu, prix du scénario à Cannes, est sorti il y a déjà 3 semaines, mais dont il nous semblait important et intéressant de vous parler. Encore une fois, aux prises avec son sujet favori, la famille, le réalisateur japonais filme cette fois-ci, dans un premier temps de son film, le jeune Mugino, élevé par sa mère, élève de CM2, et Mugino qui va mal, hein. Une phobie scolaire se dessine petit à petit, motivée par les méthodes tyranniques d'un enseignant, Monsieur Ori, lequel, affirme Mugino, le brutalise et lui dit des horreurs. Ce que nie l'intéressé, et l'intéressé qui n'est soutenu qu'à demi-mot par sa hiérarchie, refusant à tout prix de froisser un parent d'élève. Désormais, selon ses collègues, les parents sont pires que les enfants. Puis, retour en arrière. On relit le récit de ces derniers jours à la lueur de ce qu'avait vu et vécu l'enseignant, et déjà on se rend compte qu'on a été en partie, voire en grande partie, floué dans le premier récit. Qu'intervient aussi la relation de vraisemblable harcèlement entre Mugino et son camarade Yori. Cet effet rappelle le Rashomon de Kurosawa Akira, ainsi que toute la critique l'a noté et qu'il nous faut bien le souligner. Et cet effet permet l'enrichissement et le développement d'une intrigue extrêmement bien filmée et qui donne au scénario du film toute la mesure qui lui a valu sa récompense cannoise. Enfin, un troisième moment éclaire d'un nouveau jour, l'histoire de Mugino, et comme dans Rashomon, ce dernier temps, qui est celui de la vérité, est aussi celui de la pureté, en fait, précisément, de l'innocence, qui donne au film son titre français, moins inquiétant mais tout aussi juste que son titre original, Monstre. C'est un film d'une beauté absolument splendide, qui ne repose pas que sur son scénario, mais qui en fait quelque chose, visuellement parlant. Sa mise en scène est véritablement exceptionnelle, hein, mention spéciale pour les deux enfants qui sont incroyable et touchant et important. L'Innocence est assurément un film à voir, non?
Bah moi je suis complètement d'accord. Je rejoins complètement ce que tu dis, notamment sur le titre. Je trouve que même L'Innocence est même un meilleur titre que le titre original parce que c'est vraiment un film sur ça, sur l'innocence au sens effectivement de pureté, celle des deux enfants, des deux acteurs principaux qui sont vraiment, ils sont excellents tous les deux. Ils m'ont fait démentir, moi qui ai une espèce d'a priori sur le fait que c'est vraiment très difficile, si ce n'est quasiment impossible, de faire de vraiment excellents films avec des acteurs principaux enfants. Bah là, c'est vraiment le cas, ils sont tous les deux brillantissimes. Et donc il y a cette innocence-là, et puis il y a évidemment l'innocence par opposition à la culpabilité, parce que c'est aussi le thème du film, et bah, sur ce plan-là, le scénario est effectivement incroyable, quoi. Ça mérite complètement ce prix qu'il a eu. Les retours en arrière sont géniaux. Ça passe aussi par la mise en scène qui structure tout ça, avec toujours le même plan de la ville et le même événement de l'incendie qui ouvre chacun des points de vue. Et puis, ça déplace le curseur en permanence, quoi. Le premier point de vue, on est assez persuadé que finalement, ce prof est effectivement un connard. Et puis, deuxième point de vue, finalement, on se dit que l'enfant, finalement, peut-être ment, et puis c'est chelou, et on se prend de. On est pris de pitié pour l'entraîneur, j'allais dire, what the fuck, pour le professeur. Et puis enfin, le dernier point de vue, où finalement, on se rend compte que la culpabilité est nulle part où on pensait qu'elle pouvait être, quoi. Et donc, on a un dernier déplacement de curseur. Et de focus, et j'ai trouvé ça formidable, et extrêmement bien écrit, donc forcément, mais aussi extrêmement bien mis en scène, comme tu l'as dit, et encore une fois, les deux enfants, mais aussi les autres acteurs et actrices de manière générale, sont tous très bons.
Oui, non, c'est. Enfin, je trouve que c'est vraiment un super film sur l'enfance. On en a parlé déjà de plusieurs ici. Mais pour revenir sur l'un d'eux, pour celles et ceux qui auraient aimé Le Garçon et le Héron, on retrouve plusieurs thèmes ou motifs. Hein, d'ailleurs, pas que, je veux dire, dans la même sphère civilisationnelle, puisqu'on a l'enfant qui cherche à se blesser pour éviter l'école et la solitude qu'il éprouve là-bas. On a un immeuble en feu, d'ailleurs, qui ouvre le film dans les deux cas. Et d'ailleurs, cet immeuble en feu, tu l'as dit, c'est l'événement par lequel les trois récits commencent. Et puis, ça mêle à son scénario et à sa mise en scène une critique vraiment pour le coup acerbe de la société japonaise qui est celle que Koreeda, dont Koreeda a fait sa marque. Hein, il avait quand même eu des problèmes avec le premier ministre du Japon pour une affaire de famille. Et là, en l'occurrence, il y a une critique à la fois du conformisme que la mère souhaite pour son fils, une critique de l'hypocrisie de sa société qui stigmatise certains par tradition et par facilité, ferme les yeux sur des comportements autrement plus dangereux et maladifs. Hein. C'est difficile de pas trop en dire, mais oui, voilà, qui stigmatise des comportements par tradition et facilité et qui ferme les yeux sur d'autres aussi par tradition et par facilité. On a une critique de la rumeur, on a une critique plus en filigrane mais bien présente d'un système scolaire qui est fondé sur la concurrence dès l'école et des comportements des élèves, de la complaisance des enseignants et tout. Et puis ouais, d'ailleurs, je disais que il s'attaquait à la famille, c'est pas si exact que ça en fait. C'est vraiment plus sur l'enfance et c'est un cinéaste qui, comme Bellocchio dans l'Enlèvement, dont on avait parlé aussi, sait filmer à hauteur d'enfant, vraiment. Et puis aussi un film sur l'école dont il souligne la dimension pénitentiaire. En fait, le lieu est vraiment filmé comme un lieu hostile et déplaisant.
Ouais, complètement. Et encore, même ça, finalement, après, c'est progressivement déconstruit et
Oui.
nuancé avec le personnage de la directrice qui a aussi droit à une micro-scène de son point de vue et qui, pareil, fait changer un peu le regard. Elle a une scène aussi avec Mugino qui change un peu aussi le point de vue. Enfin,
Elle est incroyable cette scène.
ouais, elle est géniale. Mais et puis d'ailleurs, même ça, enfin, ouais, on va pas trop divulgâcher, mais le son des cuivres qui revient tout le temps et on comprend
Réussir à
pas d'où ça
m'émouvoir avec
vient.
un trombone,
Ouais, incroyable. Un trombone mal joué en
un
plus,
trombone mal joué par un enfant.
c'est formidable. Non, non,
C'est très émouvant.
c'est génial. Et puis ouais, filmé à hauteur d'enfant, comme tu as dit, c'est aussi un magnifique film sur l'amitié entre les deux enfants, sur l'amour aussi, ouais, sur la parentalité aussi avec la mère. Enfin, il y a énormément de choses qui sont charriées par le film. Et à chaque fois, enfin, ça fait pas trop plein, il n'y a pas des choses qui sont seulement esquissées. Tout le temps, il y a une grande précision, une grande justesse. Et ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment assez impressionnant de maîtrise et de virtuosité, quoi.
Ouais, complètement. Hein. Tu parles de justesse et c'est ça en fait. Parce que, ouais, je disais critique, 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 mais à chaque fois il y a évidemment une subtilité. Et puis plus que ces personnages, ce sont, et je m'excuse pour ces termes de marxisme des années 70, les structures dans lesquelles ils évoluent que dénonce Kore-eda. Mais c'est effectivement ça. Les personnages en eux-mêmes, ils sont tous excusables, ils sont tous touchants, ils sont tous compréhensibles. La grande force de ce film en fait, c'est que ben, tu parlais de la directrice qui est un personnage secondaire, mais. Des personnages principaux comme des personnages secondaires, le film les comprend tous. Mais c'est sûr qu'il comprend le plus ses enfants et qu'il s'affirme aussi un peu contre Freud. Je veux dire, il n'y a aucune perversité dans ces jeux interdits. En fait, c'est plus les adultes qui sont à mettre en cause que les enfants, je trouve. Et ça pose effectivement la question de l'innocence. Et on a juste de la peine pour ces enfants qui se voit comme un des monstres, d'où le titre original, aux yeux des adultes. Et ça, c'est montré aussi dans la musique, d'ailleurs, une musique de Sakamoto Ryuichi, qui on doit notamment la musique de Furio, qui est très bien. Mais là, il fait une variation, c'est d'ailleurs sa dernière composition avant sa mort, sur le Dies Irae, qui est une mélodie grégorienne qu'on retrouve dans un tas de films et qui annonce au départ le jugement dernier, et qui tend vers ce côté monstrueux qui sous-tend en fait le film et qui contribue à l'atmosphère aussi éprouvante hein, qui est parfois celle de ce film parce que franchement dans les notes que j'ai prises j'ai noté plusieurs fois que c'était éprouvant de voir que ces enfants sont à ce point mis à mal par le regard que portent sur eux des adultes et quand je parlais de travail de la mise en scène on a tout plein de lieux qui sont parfois à la lisière du fantastique comme le tunnel abandonné, le wagon, le train qui sont des réminiscences ou bien de la part du réalisateur ou plutôt du spectateur que je suis à des dessins animés comme Your Name ou Chihiro hein, tout simplement mais qui sont des lieux qui comme dans ces dessins animés-là vont refléter aussi la psyché de ces enfants, ce sentiment d'être à part, cet autre monde qui est la manifestation de l'altérité où ils sont tenus à distance, confinés par le regard des autres. Et ça, c'est encore une autre des forces de la mise en scène qui a énormément de plans très 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 beaux. On a les. Enfin, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué, qui sont les gouttes de pluie qui effacent la boue sur le toit d'un wagon. En fait, et là, on voit la pluie crépiter dans un sens. Alors, c'est un plan qui ne dure pas très longtemps, mais si vous allez, vous verrez de quoi je parle. C'est très particulier et c'est quelque chose en fait, que j'avais jamais vu. Et c'est un sentiment. Enfin, j'étais très heureux en sortant du film de me dire, voilà, ça, c'est des choses que j'ai encore jamais vues. On a cette image, sinon, tu en parlais, qui scande le récit un peu d'un plan en hauteur de la ville, de nuit. La ville en question qui borde un lac, mais qui devient la nuit comme une énorme tache noire entourée des lumières urbaines, enfin qui manifestent énormément de choses. On peut l'interpréter un peu comme on veut, des lacunes, de la mémoire, du mensonge, du secret, etc. Mais ouais, voilà, qui sont dans tous les cas, ces mensonges, ces secrets vont entourer les protagonistes qui sont tous des marginaux. C'est ça aussi qui est beau. La mère, le prof, la fiancée du prof, la directrice et évidemment les enfants. Voilà. Et puis, ah oui, si. Peut-être aussi une dernière chose, c'est que moi j'ai trouvé que c'était une réflexion vraiment intéressante sur le cinéma et sur le contrôle de notre sympathie, sur ce qu'il fait le choix ou non de nous montrer. Parce que même à l'inverse de Rashomon, les gens mentaient vraiment dans les premiers récits avant d'avoir le dernier qui est la réalité. Là, à chaque fois, c'est juste un aperçu de la réalité. Et sur ce que le film fait ou non le choix de nous montrer, la vérité est toujours ailleurs et jamais telle qu'on l'a cru au départ. Et voilà, le premier récit nous fait qu'à peine quitter l'appartement de la mère de Mugino, c'est une atmosphère enfermée, le second a plutôt lieu dans l'école. Et enfin, le dernier, donc dans ce tiers-lieu, dans ce monde parallèle, que c'est approprier l'enfance et qu'on vous invite très fortement à aller visiter avant que le film ne soit plus en salle. Quoi. Il est sorti le 27 décembre. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Lucie.
Donc en prévision du visionnage de Poor Things, du nôtre et du vôtre, puisqu'on va en parler dans 2 semaines, je voulais rappeler que sur Mubi, il y a tous les films de Yorgos Lanthimos. De Kineta à... Non, peut-être pas tous. Il n'y a pas La Favorite, il n'y a pas Mise à mort du cerf sacré, mais en tout cas, vous avez les premiers, les films grecs, Alps, Kineta et Canine, que je vous recommande chaudement, surtout Canine, qui, je trouve, explique le mieux le cinéma de Lanthimos et la façon dont il arrive à créer un univers décalé et à choisir les règles de cet univers, la façon dont les gens parlent, la façon dont on reçoit les choses, à travers une esthétique de l'étrangeté à tout point de vue. Et voilà, enfin, vraiment, je vous recommande chaudement son cinéma, en tout cas. Parce que moi, c'est la nouvelle vague, l'étrange nouvelle vague grecque, comme on l'appelle. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est fascinant. Et qui nous dissocie un peu de notre perception de la réalité. Voilà.
Merci, le conseil de Nathan.
Alors déjà, je corrobore ce que dit Lucie. Parce que j'ai effectivement, moi aussi, très hâte de voir Poor Things. Et j'adore Yorgos Lanthimos. Je ne sais pas si The Lobster est sur Mubi, mais moi, j'avais vraiment...
Oui, The Lobster, c'est mon préféré.
Ah ouais, moi aussi. Ok, nickel.
Et Poor Things est génial. Hein.
Ah, tu l'as vu?
Ouais, je l'ai vu en avant-première le 1er janvier.
Oh là là.
Une pépite. Mais je fais mon mémoire dessus, donc.
Ah oui.
Oh là là,
sur le film gothique contemporain, alors. En plein dedans.
Sujet. Bah, vivement dans 2 semaines, alors.
Ah, vraiment. Tu vas avoir des choses à dire, tu vas nous mettre une raclée.
Genre.
Une masterclass de Lucie. c'est pas mon conseil, mais je corroborerai. Mon conseil à moi, c'est un peu moins... moins bien, hein, honnêtement. mais je voulais quand même en parler. C'est Vermine. C'est un premier film donc, de Sébastien Vanitschek, un film d'horreur français. Qui moi m'a complètement surpris. Je suis pas du tout adepte de films d'horreur. J'en vois très peu, surtout au cinéma. Et là, arachnophobe que je suis, je sais pas pourquoi, mais je suis allé m'y coller. Et j'ai trouvé ça très efficace, mais sans être aussi rentre-dedans et simpliste qu'on pourrait le penser. Le message est pas si bébête. Il est traité de manière assez originale, quoi. De manière allégorique, il y a une réflexion sur l'état des immeubles de cité.
Meilleur que Bâtiment 5, tu veux dire ?
Ah, mais bien meilleur, beaucoup plus intéressante. Et sur l'animosité aussi de la police par rapport à leurs habitants, et vice-versa aussi. Et puis aussi sur notre rapport à la nature. Bref, ça dit pas mal de choses, en fait. Et puis c'est très bien ficelé, quoi. Il y a des plans vraiment marquants. Il y a un final, le final est un poil brouillon, mais globalement la tension est bien tenue. Il y a une bande originale rap, quasiment exclusivement de morceaux de rap, qui fonctionne très bien et qui accompagne des séquences presque clipesques avec des plans d'araignées qui sortent de bouche de gens. Enfin bref, c'est hyper dérangeant, mais ça rend visuellement très bien. Les effets spéciaux, même si je m'y connais pas très bien, je suis pas expert, mais ils m'ont l'air vraiment excellents. Enfin, en tout cas, moi, ça marchait complètement. J'étais terrorisé. Et voilà, c'est absolument pas le film de l'année, mais c'est honnêtement un film vraiment surprenant est globalement réussi dans ce qu'il propose et ce qu'il veut faire. Et je pense aussi important à soutenir ce genre de projet, notamment encore plus un premier film dans le cinéma français. Voilà, oui. Donc c'est mon conseil.
Eh ben, je le corrobore aussi. Je l'ai pas vu encore, mais je veux vraiment le voir parce que cette nouvelle vague de films de genre français. Bon, il y avait Vincent doit mourir là que t'avais conseillé avant les vacances, mais il y avait Le règne animal et d'autres encore de Juste Philippot par exemple, sont plus que réjouissants. Donc, il faut effectivement les soutenir. Et mon conseil à moi, c'est un film aussi un film de genre en salle depuis le 27 décembre également, et c'est Dream Scenario de Christopher Borgli, un film avec Nicolas Cage, donc ben, moi j'étais déjà j'allais y aller, où ce dernier incarne Paul Matthews, prof à l'université, un monsieur tout le monde vraiment vraiment banal et sans intérêt, mais qui tout à coup se met à apparaître dans les rêves des gens, ceux qu'ils connaissent comme ceux qui ne l'ont jamais vu. Il tente de surfer sur ce buzz inattendu, lui qui a toujours voulu être célèbre avec ses travaux sur le mimétisme animal et chez les insectes notamment, mais sans jamais néanmoins se donner les moyens d'être célèbre. Donc il va essayer de surfer sur ce buzz, mais tout ça se retourne contre lui quand les rêves deviennent des cauchemars où Paul se met à maltraiter celles et ceux qui rêvent de lui. C'est un film bon, qui repose avant tout sur son concept, qui est un concept drôle et qui permet des scènes surréalistes et parfois hilarantes, et sur son acteur qui est impeccable de bout en bout. Et ce serait vous mentir que de dire qu'il en va de même pour le reste du film, qui bon, tourne en rond un peu dans son dernier tiers et qui nous donne que le sentiment que Borgli a vite fait d'essouffler son idée. Mais outre le fait qu'il dure moins de 2 heures, ce qui est rare maintenant, on en retiendra la satire acerbe de notre monde ultra-médiatique, mais une satire intelligente et cynique, ce qui est suffisamment rare pour être noté, là encore, qui, bon, voilà, elle reste limitée malgré tout. On finit juste par avoir pitié de ce pauvre personnage pour qui rien ne marche, sans pour autant confiner à l'antipathique. Pour l'expérience esthétique néanmoins, pour vous faire votre avis, et parce que l'on ne voit pas assez de films de genre, à nouveau, je vous conseillerais vraiment d'aller faire un tour en salle pour le voir à l'occasion, il passe encore partout. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux, Nathan et Lucie, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Making of. Et comme d'habitude, ce sera disponible directement sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de rejoindre, surtout, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.